reportage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Comment réagiront les autorités congolaises après l'attaque armée qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en RDC, accentue-t-elle la pression sur le pouvoir? Les débats à suivre après Décryptage.
Décryptage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Yamin Soum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, conférencier et enseignant, auteur de l'ouvrage « Discriminer pour mieux régner ». Ce 22 février, pour marquer le deuxième anniversaire du mouvement de protestation populaire en Algérie, le Irak a organisé des protestations, notamment dans la capitale Alger. Objectif, signifier aux autorités que le mouvement est toujours debout. Ce rappel était-il nécessaire et le message est-il passé selon vous?
Alors oui, ce qu'on peut dire, deux choses. La première, c'est que bien évidemment, ce qui a paralysé le mouvement, ça a été la crise en lien avec la Covid. Et donc là, on assiste à une reprise, puisque pendant cette période-là, la répression ne s'est jamais arrêtée. Hein. Pire, elle s'est accentuée avec des détenus d'opinion. Donc le rappel, il est nécessaire. Et de l'autre côté, ce qu'on peut dire, c'est que les autorités algériennes ont dû lâcher du lest en libérant un certain nombre de détenus d'opinion, donc de détenus politiques, je pense, pour donner des gages justement au Hédak et d'essayer d'apaiser les tensions. Tout ça dans un contexte à la fois de crise économique profonde en Algérie, une grande partie de l'économie c'est de l'informel, et puis de mouvements sociaux. Il y a eu des manifestations dans tout un tas de villes, notamment contre le couvre-feu et les mesures de confinement qui ont été mises en place en Algérie.
Le président Abdelmadjid Tebboune a également décidé de dissoudre le Parlement, d'appeler à des élections législatives anticipées d'ici la fin de l'année. Ce sont des gestes d'apaisement. Pensez-vous qu'au niveau du Irak, cela a été entendu comme tel?
Alors, je ne pense pas, puisque bien évidemment que la libération des détenus, c'est une étape importante, mais l'un des détenus, c'est le plus symbolique, Khaled Derami a précisé que tant que d'autres prisonniers seront détenus, des prisonniers d'opinion, eh bien que nous n'étions pas libres en tant que peuple. Donc c'est bien évidemment pas suffisant, puisque l'Algérie, comme vous le savez, vit des profondes transformations qui sont à la fois sociologiques, économiques, et que le désir de liberté est plus important que la dissolution d'un parlement. C'est-à-dire qu'il y a tout l'enjeu notamment de la Constitution, de transformer la Constitution et d'aller vers un État démocratique. Et les Algériens ont conscience qu'il n'y a pas réellement de changement. C'est juste, on change quelques pions, on bouge quelques dominos sans revoir la structure et la copie en profondeur.
Donc vous pensez que ces mesures de détente annoncées par le président Tebboune pourraient ne pas donner lieu à un répit dans les contestations?
Au contraire, je pense qu'elles vont même renforcer, puisque l'idée, c'est qu'en se disant le Hédak reprend, au même moment, il y a la libération des détenus d'opinion, c'est peut-être aussi, ça peut même entraîner l'idée que c'est une manière que la rue puisse continuer à mettre la pression aux autorités algériennes pour qu'ils puissent avoir un certain nombre de réformes et de changements qui, une fois de plus, passent par un état de droit lequel n'est pas l'Algérie. On ajoute à cela le sentiment qu'on est complètement emprisonné alors que le président est parti à plusieurs reprises, le président Tebboune, se faire soigner en Allemagne. Donc on a l'impression que la santé, ça se passe pour les dirigeants en Occident, mais que le peuple algérien est complètement enfermé. C'est d'ailleurs une année record cette année en termes de départ des halagas, ceux qui partent en bateau. On n'a jamais vu un phénomène aussi important, alors que le phénomène avait décrit au début du Hédak. Donc tout ça exprime bien évidemment une forme de malaise qui risque de conforter ce mouvement pacifique qui est apparu il y a 2 ans.
Le Irak avait obtenu, on se rappelle, le départ du pouvoir de Abdelaziz Bouteflika, mais pas du système. Un peu comme en Égypte, le régime reste militaire. Est-ce qu'il a les moyens de remporter cette autre manche, c'est-à-dire réduire significativement l'influence des militaires?
Alors, il y a deux aspects sur l'influence, effectivement, des militaires. C'est qu'en Algérie, on s'est aperçu que les réseaux, effectivement, politiques ont été mis à nu avec la fin du régime de Bouteflika. Les réseaux économiques aussi, parce qu'il y a eu tout un tas de dirigeants plus ou moins corrompus qui ont été détenus, incarcérés. Je pense à ces figures de milliardaires algériens, c'est-à-dire oui, des réseaux parfois politiques ou politico-économiques, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a un face-à-face armé-pouvoir. Sauf qu'il y a un problème de temps, C'est-à-dire que la légitimité tirée de la guerre d'indépendance, eh bien, ça va être compliqué de dire qu'on a combattu aujourd'hui parce que cette génération est en train de mourir. Et puis, l'autre problématique, c'est est-ce que, au sein du commandement de l'armée, il n'y aura pas, justement, des réformistes, des démocrates qui vont commencer à dire, est-ce qu'on change le système? Un peu ce qui s'est passé avec la révolution des œillets au Portugal, qui a permis une transition démocratique.
Mais est-ce une bonne chose pour l'Algérie de voir l'armée s'éloigner du pouvoir, du cercle du pouvoir, dans un contexte sécuritaire qu'on connaît difficile?
Alors, si on regarde les expériences maintenant depuis 30 ans dans les pays dits de langue arabe ou raffidés à la Ligue arabe, on prend le cas de la Syrie, on prend le cas de l'Irak, de la Libye, on a bien vu que les armées, c'était surtout un appareil sécuritaire contre, qui poussait contre la population. L'armée de Saddam Hussein, qui était présentée comme une superbe armée, s'est effondrée en quelques temps. La même chose pour Kadhafi.
Mais c'était aussi, pour certains experts, un gage de stabilité de ces pays.
Oui, en tout cas, c'est ce qui est présenté en tant que tel. Mais on a bien vu dans les expériences concrètes, prenez le cas de l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui mène une guerre au Yémen, acheter des armes, ça ne veut pas dire savoir faire la guerre. Et tant qu'on est tributaire des pays du Nord, tant qu'on achète quelques ferrailles aux Russes ou aux Chinois ou aux Occidentaux, eh bien, cet appareil sécuritaire, il n'apportera pas justement la stabilité. Un pays qui perd ses médecins, qui perd ses cadres, qui perd ses jeunes, il n'est pas stable.
El Yamin Soum, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes sociologue, conférencier et enseignant, auteur de l'ouvrage « Discriminer pour mieux régner ».
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et c'est l'heure du débat alors qu'il est 18h15 à Kinshasa et à Paris après l'attaque armée qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en RDC. La pression s'accentue-t-elle sur le pouvoir congolais? Nous en débattons ce soir avec Francis Kalombo, député honoraire et porte-parole de Moïse Katumbi. Il est en ligne de Kinshasa. Est-ce que M. Kalombo nous entend?
Oui, je vous entends très bien, merci.
Bonsoir et soyez le bienvenu, M. Kalombo. Et avec nous également ce soir, le professeur Alfred Toumba-Shango-Lokoro, politologue, professeur à l'Université Sorbonne Paris 3, ici en France. Professeur Lokoro, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons le plaisir également d'accueillir Ghislain Mouya, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha. Il est à Goma. Bonsoir, M. Mouya.
Bonsoir, madame la journaliste, et bonsoir à tous les invités.
Merci, monsieur Mouya, d'être avec nous. Et nous allons commencer justement le débat par vous, parce que vous êtes à Goma, près de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Comment réagit-on dans votre ville à l'attaque du diplomate italien?
Merci d'abord pour l'invitation. Je dois d'abord rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été victimes de cette embuscade, notamment Monsieur l'ambassadeur, mais également Monsieur Mustapha, qui est un citoyen de Goma, c'est un habitant de Goma.
Son chauffeur.
Et également les gardes du corps. Oui, son chauffeur, c'est un habitant de Goma, donc c'est un ami pour beaucoup d'habitants du Nord Kivu. Et également, il y a eu des attaques aujourd'hui à Beni. Il y a des citoyens qui ont été tués encore à Beni. Et nous profitons également pour leur rendre hommage. C'est exactement ce qui justifie la réaction de tous les citoyens ou des habitants du Nord Kivu sur tout ce qui se passe à l'est de la RDC. En voyant ce qui s'est passé hier, pour nous, c'est encore une fois un signe, une expression du niveau élevé d'insécurité à l'est de la RDC. Comme vous le savez, il y a plusieurs années qu'on tue à Goma et il y a de plaidoyers qui ont été menés par des mouvements comme la Lucha ou beaucoup d'autres organisations de la société civile pour essayer d'expliquer la situation qui se passe à l'est de la RDC. Mais il semble que ce soit la communauté internationale ou même la communauté nationale, notamment nos gouvernants, ils ne comprennent pas les degrés du problème. Et ce qui s'est passé hier, c'est encore une fois une preuve qui essaie de démontrer
le niveau de la gravité de la situation. Oui, le niveau de gravité évidemment. De la situation. Mais M. Mouya, sans évidemment se réjouir de ce qui s'est passé, est-ce que vous vous dites peut-être finalement cette attaque va être un déclic et déclencher, disons, une sorte d'attention beaucoup plus particulière des autorités à cette situation d'insécurité que vivaient déjà et que vivent régulièrement les populations de Goma et de l'Est en général?
Alors, il y a un constat que nous avons toujours remarqué. Lorsqu'il y a des attaques ignobles, que ce soit à l'égard de personnalités ou que ce soit à l'égard des civils et qu'il y a une très grande envergure, il y a une très grande mobilisation des autorités ou des citoyens ou même de la communauté internationale et qui essaie de lancer des messages de condoléances ou d'exiger des enquêtes, mais jamais il y a pas eu des actions concrètes qui se posent. Et pour nous pensons que ce qui s'est passé hier doit être un moment pour qu'il y ait des actes concrets. En fait, et ces actes, c'est notamment des opérations de grande envergure pour mettre fin à l'activisme des groupes armés à l'est de la RDC, que ce soit des groupes armés nationaux ou étrangers, mais également arrêter des groupes, plutôt des armées étrangères qui viennent faire des opérations au niveau de l'est de la RDC. Et aussi mener une enquête indépendante, une enquête internationale indépendante qui sait ce qui se passe à l'est de la RDC, parce que pour nous c'est vraiment un génocide. On a écrit notre récent rapport que nous avons intitulé La Fatimétrie, où nous avons dénombré plus de 4000 personnes tuées en une année, et ça c'est seulement dans des zones actives où il y a plus des actes de groupes armés, notamment à Beni, à Goma.
Le bilan dont vous parlez, c'est pour l'Est, c'est pour l'ensemble de l'Est, pas seulement pour Goma. 4000 morts par an.
Ça c'est pour des zones plus actives. Quand je parle des zones plus actives, c'est notamment Beni, c'est Goma, par exemple, où il y a beaucoup de cas d'assassinat. C'est à Ituri où les groupes Codeco continuent à faire beaucoup d'exactions, mais également dans le haut plateau, aussi de Kivu, et sans compter le nombre de personnes qui sont tuées dans d'autres régions, à Walikale, à Masisi, et même dans les grands Katanga. Et c'est donc pour dire simplement que les massacres au Congo, il est à un niveau très élevé, et je pense que la mort de l'ambassadeur doit encore une fois interpeller l'ensemble de la communauté nationale et internationale pour poser des actes pratiques. On n'est plus dans les temps des discours, mais nous avons besoin des actions. Le président Tshisekedi a promis beaucoup de choses, mais il n'a réalisé jusque-là aucune de ses promesses. Nous voulons des actes beaucoup plus pratiques.
Merci beaucoup, M. Mouyiwa. Justement, on a un politique qui était dans l'opposition et qui est maintenant membre de la majorité à travers l'Union sacrée. M. Kalombo, quand on écoute la situation dans l'est du pays, notamment à Goma, telle que vient de décrire votre compatriote Ghislain Mouyiwa, on se dit... Cette attaque ne surprend finalement pas, ça devait arriver un jour ou l'autre, au regard du niveau d'insécurité dans l'Est et à Goma.
Merci beaucoup, mais bien sûr ça devrait arriver. Il y a une telle tension, il y a des groupes armés autorisés même par la communauté internationale. Il ne faut pas oublier que ces groupes armés vivent et achètent des armes via les multi, les sociétés que la communauté internationale protège. Il suffit qu'on oblige la traçabilité de minerais qui viennent de la République démocratique du Congo et qu'on refuse de les acheter. Je pense que ces groupes armés n'auront plus besoin. Comment vous pouvez accepter aussitôt qu'on tue un ambassadeur, et vous avez même des AFDLR qui font des communiqués pour dire que non, nous on ne sait pas, c'est-à-dire ils sont en contact avec des gens. Et aujourd'hui avec la nouvelle technologie, on ne sait pas les localiser, on ne sait pas les demander de plier bagages et de quitter la République démocratique du Congo, c'est des Rwandais. Et lorsque le Rwanda refuse de les accueillir, ou qu'ils soient jugés s'ils ont commis des crimes, mais on ne veut pas continuer à les garder chez nous, ces gens commettent des crimes matin, midi et soir, puisqu'ils ne travaillent pas. Comment ils vont vivre alors qu'ils ont des armes?
Excusez-moi,
comment ils achètent des armes?
Voilà, M. Kalombo, je vais revenir avec vous brièvement tout à l'heure sur ce que vous venez de dire, que la communauté, ces groupes armés, certains de ces groupes armés sont autorisés par la communauté internationale. Vous allez nous dire laquelle communauté internationale peut-être. Mais vous, vous dites que ce sont les FDLR qui ont démenti et ont indiqué que eux, ils ne sont pas présents dans la localité où l'incident a eu lieu et ils appellent d'ailleurs à une enquête internationale, alors que vous, vous les accusez.
Mais ce sont des hommes armés, ils n'ont rien à faire chez nous. Ils prennent encore.
Oui, mais donc, sur quels éléments vous fondez-vous pour dire que ce sont les FDLR qui ont commis cette attaque?
Je m'en tiens au communiqué du gouvernement. Sauf qu'eux, ils ont le culot même de dire que non, mais ils sont chez nous avec des armes. Ils font quoi chez nous? C'est des Rwandais qu'ils aillent au Rwanda. S'ils ne peuvent pas retourner chez eux, qu'ils quittent puisqu'ils commercialisent chez nous. Et ils commercialisent aussi avec le Rwanda. C'est ça le problème. Tantôt, le Rwanda a peur d'eux, soi-disant. Ils ont des armes, ils vont déstabiliser le Rwanda. Mais en ce qui concerne les affaires, ils font les affaires. Vous avez des avions qui atterrissent matin, midi et soir, des camions qui traversent les frontières en provenance de chez eux. Ils sont fournis, ils sont nourris. S'ils n'ont pas d'argent, ils vont faire comment? Qui les fournissent en armes, qui les fournissent en argent, en munitions. Et ils prennent des kilos de livres. Nous devons éradiquer.
Monsieur Kalombo, excusez-moi, nous essayons de comprendre comment s'est passée cette attaque, qui en sont les responsables. Vous, vous faites le procès de FDLR.
Mais ce n'est pas que je fais le procès de FDLR. Ils font partie des gens qui commettent des crimes chez nous. Et la communauté internationale.
On dit également qu'il y a plusieurs groupes armés. Monsieur Mouiwa vient de le dire, qu'il y a plusieurs autres groupes armés qui opèrent dans cette partie de la RDC.
J'en dis qu'on ne vient pas. Tous ces groupes armés doivent être éradiqués et doivent être sanctionnés, puisqu'avec la nouvelle technologie, comment on peut tuer un ambassadeur et ces gens vont s'éclipser en brousse? Il y a des satellites, on sait que ça tourne partout. Quand il fallait attraper Ben Laden, on a mis le moyen. Quand il fallait attraper l'ancien chef de guerre angolais, on a mis des satellites en marche. Ces gens communiquent, ils ont des téléphones. On ne sait pas les suivre. Oui, Jonas Savimbi, on a pu le retrouver. Mais ces gens communiquent, ils ont des téléphones. On ne veut pas. Simplement, il n'y a pas une bonne volonté de la communauté internationale.
D'accord. Vous nous direz tout à l'heure, selon vous, quelle est la responsabilité de la communauté internationale dans ce qui arrive en RDC. Professeur Alfred Ntumba Shango-Lokoro, votre premier commentaire sur ce que viennent de dire les deux précédents intervenants.
Je voudrais d'abord avoir une pensée émue et sincère pour les trois victimes, Vittorio Iacovacci, Mustapha Vigilambo et Luca Tanasio, et à leurs familles, à leurs veuves qui sont restées et aux enfants qu'ils ont laissés, une pensée forte pour ces disparus. Est-ce que la disparition de l'ambassadeur d'Italie, l'assassinat dont il a été l'objet à Kibumba, à côté de Goma, met en lumière effectivement l'insécurité généralisée qui règne à l'est de la RD Congo, en particulier au nord Kivu, dans l'Ituri. Tout cela vient d'être rappelé. Maintenant, passé ce moment des mois, restons sereins et examinons calmement la situation. Il me semble qu'il faut déjà une réponse politique du gouvernement central de la RD Congo, ou une réponse militaire aussi, et une réponse sécuritaire, c'est-à-dire des renseignements et des informations pour essayer de traquer, de neutraliser toutes les bandes armées qui sévissent à l'est de la RD Congo et certains groupes internationaux qu'on connaît comme l'ADF Nalu, qui sévit à Beni, à Butembo, en partie en Ituri, de Codeco, on l'a évoqué, et puis d'autres groupes locaux qui participent de cette insécurité. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que le lieu où a eu ce guet-apens, cette attaque, montre très clairement que ça ne peut pas être, mais on le verra, et les enquêtes sont diligentées à la fois par le gouvernement.
Professeur Ntumba Shango, on va devoir marquer une pause et puis vous poursuivrez dans un instant.
Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
La mort dans une attaque armée lundi de l'ambassadeur d'Italie en RDC va-t-elle pousser les autorités à revoir leur stratégie de lutte contre l'insécurité dans l'est de la RDC? Nous en débattons ce soir avec Francis Kalombo, député honoraire et porte-parole de Moïse Katumbi. Il est à Kinshasa et à Goma. Ghislain Mouiwa, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, et professeur Alfred Toumba Chango-Loko, politologue, professeur à l'Université Sorbonne Paris 3, que nous allons entendre à nouveau pour lui permettre de terminer son analyse. Professeur, vous parliez des auteurs présumés de l'attaque qui a donc coûté la vie à l'ambassadeur italien, et vous disiez que l'enquête pourrait livrer quelques surprises.
En effet, puisque on a entendu le ministre de l'Intérieur de RD Congo avancer imprudemment que ce sont les SDLR qui seraient responsables de ces guet-apens et de cet assassinat criminel. On n'en sait rien, mais dans leur réponse justement, ils ont indiqué en tout cas il fallait chercher la responsabilité du côté des FARDC et puis des forces de défense du Rwanda. Mais peut-être que ça ne serait que des groupes, des bandits armés qui sévissent dans cette région entre Goma et Rutshuru. Et donc attendons que les enquêtes qui sont menées maintenant nous apporte des réponses véritables.
Donc vous êtes prudent quand les autorités accusent, ou bien vous êtes prudent quant à l'implication supposée de FDLR?
Je reste vraiment très, très extrêmement prudent puisque quand on regarde effectivement la zone d'attaque ou d'influence des FDLR, il y a longtemps qu'ils ont quitté ces lieux-là puisqu'ils ont été traqués. Qui se situe plutôt, si l'on veut, du côté de Uvira, la frontière le Burundi, hein, parce qu'ils essaient justement de pénétrer par au Rwanda par le Burundi. En tout cas, ils sont moins actifs dans cette zone-là, sinon que.
Mais quels sont les groupes alors les plus actifs dans cette zone de l'est et notamment Goma, qui pourraient être peut-être impliqués dans cette attaque?
Alors, les ADF se répartissent entre ce coin-là et Beni. Donc, en fait, ils sont dans tout le nord Kivu. Et puis, il y a des groupes locaux qui sont aussi actifs dans ce secteur-là. Et parfois, il y a des... dans certains cas, certains éléments des FARDC sont aussi impliqués dans les massacres qui se perpètrent.
Des FARDC qui sont les forces armées
de la RD Congo.
L'armée nationale.
Voilà exactement, c'est pourquoi je dis qu'il faut rester prudent et puis il faut rester serein par rapport à cela.
Merci, professeur Loko. Ghislain Mouiwa, vous aussi prudent par rapport à l'implication de FDLR, comme le soutiennent les autorités?
Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas tolérer que les autorités de la RDC puissent déjà conclure que ce sont les FDLR qui ont perpétré cet acte ignoble, parce qu'il n'y a aucune enquête qui a été menée par ces autorités ou un rapport qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus approfondi, qui essaie en tout cas de donner des évidences pour montrer que ce sont les œufs de l'air. Mais je pense que les autorités congolaises sont en manque de solutions et ils veulent juste trouver un bourreau ou un acteur ou quelqu'un, un auteur de cet acte pour continuer à se justifier. Mais je crois que les autorités congolaises ne devraient pas pousser directement de conclusions pareilles, mais elle devrait lancer une enquête beaucoup plus indépendante
Et c'est ce que demandent les FDLR qui ont dit qu'ils ne sont pas impliqués et demandent une enquête indépendante. Mais d'après vous, est-ce qu'elle le sera quand on sait qu'il y a déjà une enquête en cours à Goma? Je parlais d'une délégation, des enquêteurs de la présidence de la République qui sont allés sur place renforcer l'équipe. Est-ce que vous pensez qu'une enquête nationale ne serait pas suffisamment indépendante?
Alors, moi, je pense qu'il y a un niveau de légèreté de la part de nos autorités, et cela se remarque même dans la façon dont elle traite des informations ou des cas d'assassinat qui se passent en RDC. Ils se sont activement, par exemple, lancés en nous disant que ce qui tue à Beni, c'est seulement les actes de Fnalu, alors qu'il y a beaucoup d'autres enquêtes qui prouvent qu'il y a d'autres groupes armés, et on devrait avoir un sens d'approfondissement des questions.
Merci.
Donc pour moi, une enquête nationale ne peut pas, en tout cas, être beaucoup plus indépendante. Et je pense que la dimension de la question, la dimension de la problématique ne permet pas qu'il y ait seulement des nationaux ou des membres du gouvernement qui vont composer déjà à cette équipe.
Merci beaucoup. Merci.
Ces personnes ont déjà une hypothèse. Ils savent que ce sont les adeptes qui ont tué. Alors, vous pensez qu'ils vont aboutir à quelle conclusion? Il faut donc apporter de nouvelles personnes, des personnes qui n'ont pas déjà des présomptions sur la question, qui vont essayer d'approfondir.
Merci, M. Mouya. Merci beaucoup. M. Kalombo disait également tout à l'heure qu'il semblait dire que la communauté internationale elle-même n'est pas neutre dans la situation sécuritaire RDC. Et il semblait évoquer aussi la duplicité de cette communauté internationale. Est-ce que vous pensez que même si cette enquête, participer à cette enquête des personnes extérieures, est-ce que ça pourrait garantir son indépendance?
Je pense que la question de l'implication de la communauté internationale, elle est importante dans le sens où on sait que les Nations Unies ont des experts qui ont mené plusieurs enquêtes et sur beaucoup de questions, et il y a eu des rapports très crédibles qui conduisent même des décideurs à prendre des décisions. On voit par exemple le rapport Mapping qui a été élaboré par des experts des Nations Unies, et il y a beaucoup de personnes qui donnent crédit à ce rapport.
Merci.
Et donc, pour nous, il faut une implication à ce niveau-là.
Merci beaucoup. Monsieur Kalombo?
Oui, madame.
Partagez-vous l'idée de la participation des personnes autres que congolaises à l'enquête sur cette attaque?
Tout à fait, madame. Vous savez que nous ne sommes pas très, très bien équipés. Et d'ailleurs, moi, j'ai un avantage, madame, d'avoir participé à presque tous ces grandes rencontres pour pacifier la République démocratique du Congo. Dès Lusaka à Sun City 1 et 2. Même la conférence internationale pour la pacification de l'Ituri. On a souillé des balles à Ituri, à Bunia. Je vous dis, madame, comment est-ce qu'on peut tuer un ambassadeur à 10 heures du matin? Il fait encore clair. Vous allez circuler à Goma, vous ne verrez pas 3-4 mètres sans croiser un véhicule de la Monusco ou un militaire des Nations Unies. Ils ont des hélicoptères, madame. Ils ont tout. Comment ils n'ont pas pu, en ce moment-là, à voler même avec les hélicoptères, localiser ou le mettre en déroute, ces gens-là?
Donc, non, vous pensez que ce convoi, il y a aussi un manque de... il y a aussi une imprudence de la part des personnes qui ont organisé peut-être ce convoi?
Mais madame, restons d'abord. Le problème, c'est qu'il y a eu des drames. L'imprudence, oui. Mais maintenant, nous parlons de l'enquête. Comment est-ce que les hélicoptères...
Puisque la zone était classée jaune, d'après d'autres sources. Donc il y avait...
Mais il y a des hélicoptères à Goma. À 10 heures, il ne fait pas nuit. Ils auraient pu décoller, mettre ces gens en insécurité au niveau de la forêt, encadrer la forêt. Mais on les laisse.
Mais quelle est donc votre conclusion? Quelle est donc votre conclusion, Monsieur Kalombo, quand vous relevez...
Moi, je pense qu'il faut que la communauté internationale qui nous a imposé ces groupes armés étrangers dans d'autres pays puisse s'impliquer totalement, mais réellement.
Pourriez-vous être plus clair? Parce que vous disiez justement que la communauté internationale a imposé des groupes armés. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire, affirmer?
Madame, je vous donne un exemple. Nous participons, j'ai participé à beaucoup de rencontres pour pacifier la République démocratique du Congo. On discute avec ces groupes armés. Donc, ils sont déjà identifiables et connus. Mais lorsqu'on veut arrêter des groupes armés, on connaît que ces gens ont des téléphones, on peut même les localiser. Quand on ne veut pas, il faut regarder.
On sait qui, c'est-à-dire quand les autorités congolaises veulent mettre fin à ces groupes armés, elles sont empêchées par la communauté internationale.
Mais qui bénéficie de tout ça? C'est pas. Mais il y a une complicité aussi des Congolais. Il y a une complicité. Nous avons passé 2 ans ici avec un gouvernement où les gens se mettent des bâtons dans les roues, ne veulent pas qu'on puisse pacifier ce pays, ils veulent que les autres échouent, alors que dans l'autre sens, ce sont les Congolais qui meurent. Mais la complicité vient du fait que ces gens font du commerce. Ils vendent nos minéraux aux multinationales. C'est à eux qu'il faut voir comment ils font.
Donc les multinationales qui profiteraient des ressources nées des conflits protégeraient ces groupes armés?
Bien sûr, mais posez-vous la question. Le Rwanda ne veut pas ces groupes armés. Madame, j'ai participé. On en a attrapé, on les a renvoyés au Rwanda, bien identifiés avec des empreintes. Quelques temps après, vous le reverrez au Congo. On le retourne au Congo. Vous ne pouvez pas rester là-bas. Parce que quand ils sont au Congo, ils produisent. Et ils commercialisent avec quel pays? De l'autre côté, vous vous rendez compte comment est-ce qu'ils vivent? Le jour où on va décider de leur couper les moyens de vivre, je pense qu'on va réduire. Parce que ces gens sont à l'aise. Ils ont trouvé un moyen. Plus ils restent, plus ils ont trouvé un moyen de commercialiser, plus ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils font gagner beaucoup d'argent. Parce qu'ils sont achetés. Ils savent que s'ils achètent un produit qui coûte 10 dollars, ils les achètent à 50 cents. Qu'est-ce qui est mieux pour eux? C'est les acheter à ces prix-là et puis dire que voilà, nous, c'est le Rwanda qui importe. Donc tout ça est connu et documenté. Maintenant, ils ont la complicité. Il y a une complicité nationale aussi. Donc il y a certaines autorités qui sont des complices qu'on doit démanteler. Et le rapport Mapping qu'a cité tout à l'heure mon confrère a tout détaillé. Mais quelle est la suite après?
Merci.
Quelle est la suite? Rien.
Merci beaucoup. Professeur Alfred Toumba Loko, finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence de cette attaque? Est-ce que, d'après vous, elle devrait aboutir à une refonte ou à une révision en profondeur de la stratégie sécuritaire de la RDC?
Il y a longtemps que cette stratégie aurait dû déjà être remise en question et refondue complètement pour essayer de neutraliser toutes ces forces négatives qui sévissent à l'est de la RD Congo. Évidemment, en collaboration ou en interaction avec la MONUSCO, puisque la MONUSCO possède un contingent armé et du matériel plus important que les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a la question du renseignement militaire pour pouvoir effectivement savoir localiser et puis permettre aux interventions de l'armée congolaise d'être efficaces sur le terrain. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que la sécurité de la RD Congo dépend d'abord des gouvernements congolais avant de dépendre de la MONUSCO, de la communauté internationale. Ce qui suppose effectivement que le gouvernement congolais mobilise les moyens nécessaires pour ce faire. Or, quand on regarde ce qui se passe au Congo, le budget de l'État, on s'aperçoit vraiment de sa pauvreté qui fait que le gouvernement, et cet événement montre l'impuissance dans laquelle le gouvernement se trouve, pas seulement celui Félix Tshisekedi, qui n'est là que depuis 2 ans, mais c'est depuis 1999, et si je pouvais aller encore plus loin, depuis 1997 que le Zaïre, l'ex-Zaïre, la RD Congo est déstabilisée par des forces extérieures et qui ont laissé à l'intérieur de ce pays-là des bandits armés qui continuent à déstabiliser le pays. C'est depuis toute cette période-là qu'il y a la faillite de la sécurité militaire, de l'information militaire de l'armée RD congolais. Donc il faut revoir de fond en comble tout ce dispositif-là pour le rendre plus efficace. Mouya a rappelé effectivement que ça ne concerne pas seulement l'est de la RD Congo, puisque au Katanga aussi, on voit les prolongements des des actes de déstabilisation
Merci. Interne. Merci beaucoup. Merci, professeur Loco. On marque une dernière pause et on va revenir pour la suite de notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Question ce soir, quelle sera la réponse du pouvoir congolais face à l'insécurité grandissante dans l'est du pays où une attaque armée lundi contre un convoi du programme alimentaire mondial dans l'est donc a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie. Nous en parlons ce soir avec professeur Alfred Toumba Changoloko, politologue. Ghislain Mouiwa, militant de la Lucha, il est à Goma, et Francis Kalombo, député honoraire et porte-parole de Moïse Katumbi, il est à Kinshasa. Je vous redonne la parole, Ghislain Mouiwa, pour revenir sur un aspect qui, que M. Kalombo a beaucoup relevé, c'est sur l'implication présumée aussi du Rwanda dans cette affaire, parce qu'il dit que les FDLR sont des Rwandais. Mais est-ce que vous avez l'impression que sur les relations justement entre le pouvoir congolais et le Rwanda concernant la lutte contre l'insécurité dans l'est du pays, il y a suffisamment de visibilité aujourd'hui par rapport à avant?
Je pense qu'à ce niveau, on peut dire que la situation qui se passe au Congo ne nécessite pas seulement une solution interne. C'est aussi une solution régionale parce que nous savons qu'il y a l'implication de plusieurs pays qui environnent le Congo, non seulement le Rwanda, mais également l'Ouganda et beaucoup d'autres pays. Et je crois qu'il y a des actions qui sont posées par les gouvernements congolais.
Non, je parle du Rwanda parce que c'est ce pays qui a été nommément cité par M. Kalombo qui dit que ces rebelles FDLR sont les Rwandais. Et encore une fois, je rappelle que ce sont des suppositions puisque l'enquête n'a pas encore établi qui sont les responsables. Alors, je posais la question, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on en sait un peu plus suffisamment sur la coopération entre la RDC et le Rwanda concernant la lutte contre l'insécurité dans l'Est?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette collaboration. Il y a une réunion très récemment qui s'est tenue à Kigali entre les responsables de la sécurité du Congo et aussi ceux du Rwanda. Donc, c'est quand même une preuve qui...
Il y a des réunions, mais il y a aussi des divergences, puisqu'on a entendu Jean-Marc Kaboun, le président par intérim de l'UDPS, dénoncer les propos du conseiller à la sécurité du président, propos tenus justement lors de cette réunion. Il a estimé que les déclarations du conseiller Béa étaient graves parce qu'il semblait dire que, voici ce qu'il avait dit justement, nous sommes venus ici pour défier le monde entier, en particulier l'Occident, qui ne veut pas que nous, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, travaillent ensemble. Jean-Marc Kaboun s'est désolidarisé.
Je pense que les débats autour de contradictions qui se passent au Congo, il est très grand au niveau des acteurs politiques et c'est en fait un signe qui essaie de démontrer le niveau d'irresponsabilité de l'ensemble de la plupart de nos autorités. Et moi, je pense qu'on ne devait pas continuer à assimiler tout ce qui se passe au Congo à des étrangers. Nous sommes à Goma, nous connaissons bien la région où l'attaque d'hier s'est passée. Et on ne peut pas arriver à conclure que c'est seulement des Rwandais qui ont, des FDLR qui ont commis ces actes. Et aussi, on ne peut pas continuer à accepter que le gouvernement continue à dire que c'est seulement la communauté internationale qui doit poser des actes. Le gouvernement doit assumer ce rôle. Nous, en tant que citoyens, nous voyons qu'il y a un niveau d'irresponsabilité de la part du gouvernement. Mais aussi, nous ne pouvons pas laisser l'armée qui est plusieurs fois, il y a beaucoup d'accusations, il y a des rapports qui ont été publiés même par les Nations Unies qui inculpent certains généraux qui sont dans l'armée et qui ont été impliqués dans plusieurs exactions à l'est de la RDC.
Merci
et
beaucoup.
Malheureusement, ce que le président Félix Tshisekedi devrait faire serait de remplacer ces généraux, de les écarter de l'armée et de réformer l'armée. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous voyons que le président Félix Tshisekedi ne sait pas réaliser sa promesse de campagne. Parce qu'il a dit que déjà quand il va commencer à gérer, il va s'installer à l'est de la RDC, il ne l'a jamais fait. il a été récemment à Goma, il a dit la même chose. Et donc, nous, nous voyons des effets qui sont en train de se vivre,
merci,
simplement parce qu'il y a de l'incompétence au niveau du sommet des
merci
États.
Beaucoup.
Et ça, c'est inacceptable.
Merci, donc, M. Miou. M. Kalombo, sur cette stratégie de défense et, ou sécuritaire du président Tshisekedi, on a l'impression que même au sein d'une même famille politique, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Pas du tout. Je pense que la moindre des choses, ce n'est pas tirer une phrase dans cette réunion où il s'est dit beaucoup de choses. Lorsque les journalistes tirent une seule phrase et on demande à un politique de commenter, ben c'est tout à fait normal que chacun puisse avoir une réaction qui ne cadre peut-être pas avec la réalité. Je ne pense pas que François Béa ait cherché à défier les Occidentaux. Mais quand cela ne tienne, moi je pense que mon ami de Lucha a bien brossé la situation. Nous sommes devant une situation telle que il faut que l'armée congolaise puisse prendre ses responsabilités. Et puisque les FDLR sont des Rwandais installés chez nous, dans un coin connu, qu'on leur donne 48 heures, ils viennent, on les cantonne quelque part, voilà des gens qui se revendiquent, nous sommes dans tel coin. C'est comme si c'était chez eux. Ils peuvent se permettre d'être dans un coin et tuer, et piller. Ils vivent comment? Qui les contrôle? Non, on ne peut pas accepter. Ces gens sont chez nous par les faits de la communauté internationale qui a oublié.
Vous l'avez dit, M. Kalombo. Alors, je parlais de la stratégie de sécuritaire. Maintenant, avec la mort de ce diplomate sous les bras, quelles sont les actions ou les ajustements urgents doivent apporter les autorités congolaises face à l'insécurité?
Il faut une stratégie non seulement de l'armée congolaise, mais de la communauté internationale qui est chez nous. Je vous ai donné un seul exemple, madame. On tue à 10 heures, il y a des hélicoptères à Goma, il y a des drones, il y a tout. Personne ne s'est donné la peine de le poursuivre dans la brousse. C'est ça le problème. Alors que la communauté internationale est là avec des équipements, avec tout. Alors ils font quoi? Du tourisme ou ils font quoi? On tue tous les jours, madame. Ce sont des Congolais qui meurent pratiquement tous les jours, ce ne sont pas des Rwandais. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, puisque le FDLR sont déjà identifiables et ils ont un responsable qui peut faire des déclarations à la télévision, qu'on leur demande de quitter le territoire congolais, que la communauté internationale leur trouve un autre endroit, qu'on les envoie je ne sais pas où.
Merci.
Parce que chez nous, ils ont montré leur mauvaise foi. Et aujourd'hui, nous sommes en insécurité vis-à-vis des autres pays. Vous avez l'Ouganda aussi qui nous envoie ses opposants chez nous pour venir tuer et piller nos richesses parce qu'ils commercialisent avec l'Ouganda. Comment on peut continuer? Mais je pense que avec le président Tshisekedi aujourd'hui, avec l'effectivité du pouvoir qu'il a aujourd'hui, ben, il n'y aura plus question de nous dire, voilà, tel m'a mis les bâtons dans le roue. On a besoin d'avoir.
Donc vous pensez qu'il a désormais les mains libres pour mettre en place une véritable stratégie sécuritaire?
Oui, madame. Avant, il ne pouvait pas, puisque des fois, on ne donnait pas l'argent, on lui mettait des bâtons dans le roue, puisqu'il y a un ministre qui n'est pas de son obédience. On ne voulait pas qu'il réussisse. Maintenant, il n'y aura plus droit à l'erreur. Il
n'y
aura plus rien. Il faut
merci
que lui, maintenant, se mette debout et pouvoir tout faire. Parce qu'il y a, comme a dit mon confrère de la Lucha, mais il y a une complicité terrible, même avec certains officiers qui ont été cités, mais pas inquiétés.
Merci.
Il y a des officiers qui n'acceptent même pas d'être mutés ailleurs. Ils doivent rester toujours là-bas. Et
merci
ils font
beaucoup
du commerce.
Merci.
Alors, comment voulez-vous accepter ça?
Laissons quelques secondes au professeur Kloko pour proposer sa réponse à cette situation. L'attaque donc, qui a coûté la vie à l'ambassadeur italien, que doit faire en urgence? Quelle doit être la réponse immédiate des autorités? On parle de remplacement des hauts officiers de l'armée, de la révision de la stratégie sécuritaire. Mais au-delà, que doit faire urgemment le président Tshisekedi?
Il y a au niveau militaire, il faut le renforcement des capacités d'intervention de l'armée congolaise, une meilleure coordination entre la MONUSCO, le gouvernement et les forces de défense de la RD Congo pour chaque fois qu'il y a possibilité de patrouille commune, que ça se fasse, mais une présence permanente des forces de sécurité de la RD Congo dans ces lieux d'insécurité qu'il y a à l'est de la RD Congo.
Il faut que le président aille enfin s'installer à l'est, comme il avait promis. Ghislain Mouyiwa le disait, qu'on attend toujours que le président mette en œuvre sa promesse.
En fait, c'était symbolique. C'était une façon de parler du président de la République. Ce sont des propos de campagne, des propos de tribune. Il faut les prendre pour tels. C'était simplement l'indication d'une intention de faire justement de la lutte contre l'insécurité à l'est de la RD Congo un élément moteur de sa politique, mais il n'en avait pas les moyens il y a 2 ans, là, depuis qu'il est au pouvoir. Maintenant, effectivement, il peut se projeter plus loin.
Merci
beaucoup. La question des renseignements, et puis la réponse politique, c'est-à-dire avec les voisins de la RD Congo, de l'Est, pour pouvoir justement coordonner les actions.
Merci beaucoup.
Ça se fait avec le Rwanda, maintenant, donc il faut espérer que ça aille plus loin que simplement quelques opérations à coup de poing.
Merci beaucoup, professeur Alfred Lokoho, politologue, Ghislain Mouyoua, militant de la Lucha, et Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi, d'avoir participé à ce débat. Et nous, on se retrouve demain pour une édition du Grand Rendez-vous.